Marche arrière. J'avance, mais à chaque fois c'est encore pire. Cette improvisation ne diminue aucunement ses capacités. L'activité coordonnée qu'il déploie pour faire disparaître les traces et se forger un alibi, c'est le troisième moment. Après la mort de Laetitia, tous ses sens sont en éveil. Avec son faux SMS à 4h17 du matin, la fosse de 40 cm de profondeur, le découpage du corps, le rendez-vous à Atlantis, le voyage à Lavaux, la confection de la nasse, le nettoyage du hangar, le foyer dans le jardin et la lessive, il n'a pas chômé. On pourrait même lui reconnaître une certaine efficacité. Contrairement à ce que Meillon ne cessera d'affirmer lors de ses procès, cet enlèvement suivi de mort n'est pas un moment de grand n'importe quoi, un coup de folie dû à l'alcool et à la drogue. Son crime, commis en toute conscience, s'inscrit dans la durée. Au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, écrit l'historien Philippe Artière, le dépeçage criminel sort de l'ombre. Affaire horrible, gros titre de la presse, monographie médico-légale attestent d'une nouvelle mode, le démembrement de la victime. L'assassin ne se contente pas de tuer, il continue de détruire après la mort, tranchant, décapitant, éventrant, éviscérant. Sa haine s'enfonce dans le corps devenu plaie, lambeau sanguinolent. Le corps dépecé est un corps femme, poursuit Artière. Et c'est presque toujours un fleuve ou un plan d'eau qui recueille les débris humains. Les grands médecins légistes de la fin du XIXe siècle, Ambroise Tardieu, Paul Brouardel, Alexandre Lacassagne, inversent le geste du criminel. L'autopsie devient un dépeçage scientifique au service de la vérité et de la justice. La précision chirurgicale défait la forfanterie criminelle. Une chose pourtant intrigue chez Meillon, qui vient fissurer sa carapace et prouver que, tout monstre qu'il veuille être, il n'assume pas ses actes. Le mercredi 19 janvier, lorsqu'il rencontre Berthier à Atlantis, le coffre de la 106 est plein de sang, rempli par deux poubelles où nagent des morceaux de Laetitia, à côté du grillage et du parpaing qui vont servir à confectionner la nasse. C'est à la demande expresse de Meillon que Berthier s'est rendu au centre commercial vers 15h. C'est Meillon qui lui a confié la batterie du portable, à charge pour lui de s'en débarrasser. Rapporté à l'emploi du temps de Meillon et au risque qu'il court alors, ce rendez-vous est difficilement compréhensible. Pourquoi gaspiller des heures précieuses et s'afficher en plein après-midi dans un centre commercial très fréquenté, bardé de caméras de surveillance, à bord d'une voiture volée dont le coffre, en l'absence de plage arrière, laisse voir des poubelles remplies d'une atroce cargaison? Pourquoi inventer cette histoire de batterie à jeter, alors que Meillon pourrait très bien s'en charger tout seul, et que d'ailleurs, il va bientôt se débarrasser du reste du portable dans le trou bleu? D'un point de vue criminel, la finalité de ce rendez-vous est évidente. Partager le fardeau, et si possible, impliquer Berthier. Lui demander un coup de main. Faire de lui un complice. Berthier ne doit son salut qu'au troisième homme, le copain qui l'accompagnait ce jour-là et qui, par sa présence, a empêché Meillon de l'attirer à Lavaux. Meillon a tenté d'entraîner un autre ami dans sa chute. Loulou, un gars un peu paumé, un peu toxico, connu des services de police pour un peu de tout et à qui il manque un bras. La veille du drame, lundi 17 janvier, Meillon et Loulou ont passé la journée à revendre du cuivre volé et à faire la tournée des bars à la Bernerie et Pornic. Vers minuit, ils sont au quai 46 en compagnie d'un ancien co-détenu et d'une amie à lui. Les hommes parlent prison et armes. Avant de partir, Meillon et Loulou proposent de la coke à la fille, dans l'espoir d'obtenir quelques faveurs sexuelles. La fille refuse, alarmée par leur mine patibulaire et une sensation de malaise. Les deux comparses repartent au Gaspo, où ils prennent quelques verres et des rails de coke. Alors que Loulou, saoul et excité, manipule la carabine de Meillon, le coup part accidentellement. Dans la nuit du 17 au 18 janvier, ils vont cambrioler une clinique vétérinaire à Vertou, près de Nantes. De retour au Caspo, Loulou aide Meillon à décharger la 106. Le matériel volé, tour d'ordinateur, écran, clavier, sac de croquettes pour chien, est stocké dans le capharnaüm du hangar. Après le départ de Loulou, Meillon, incapable de trouver le sommeil, prend un nouveau rail de coke. Le lendemain, dans la soirée,